aussi sur la 95.5 FM.
Mesdames, messieurs, bonjour. Un économiste, un brillant économiste dans la grande mêlée électorale. C'est l'invité du quatrième numéro de 90 minutes pour convaincre. Il s'agit de, du docteur Adouar Mansart, tédéliste du mouvement pour la renaissance, la liberté et le développement. Bonjour, monsieur Sarr.
Bonjour, monsieur Mbouch. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je salue tous vos auditeurs qui nous écoutent à travers la radio municipale.
Pour être exhaustif, je signale que vous dirigez aussi le Centre d'études pour le financement et développement local.
Exactement.
Et il sera beaucoup question durant cette émission du développement local.
D'accord.
Voilà. Voilà, M. Sarr, en découvrant votre vision et votre programme, on se rappelle un peu la fameuse formule du président Abdou Diouf, donc président de la République. La formule, c'est moins d'État, mieux d'État.
Tout à fait.
Vous vous semblez dire moins d'État, plus de développement.
Tout à fait. Moins d'État, en fait, bon, le développement, c'est l'objectif que nous avons tous. Hein. Nous voulons tous que notre pays se développe. Mais quand nous disons moins d'État, c'est tout simplement une réorganisation de cet État-là, en termes de gouvernance, pour davantage autonomiser et responsabiliser les populations. Donc nous disons, Mom Sabop, que nous appliquons, n'est-ce pas, à tout sujet qui intéresse donc les politiques publiques, nous disons Mom Sabop, autonomiser, responsabiliser, et donc c'est dans ce cadre que, par exemple, l'État devrait être davantage décentralisé pour pouvoir autonomiser les élus locaux et les populations.
Justement, on va revenir sur votre programme, mais quand vous dites moins d'État, je disais tantôt cette fameuse phrase d'Abdou Diouf qu'il a utilisée pendant les années d'ajustement structurel.
C'est ça.
Quand on dit ajustement structurel, on passe au FMI.
Oui.
Et vous êtes un ex-agent du FMI.
C'est
donc,
ça.
Donc, ce n'est pas surprenant de votre part.
Non, en fait, je pense que ce n'est pas lié au fait que j'étais au FMI. Ce sont des principes. Le principe, c'est que tout ce que les populations peuvent faire par elles-mêmes, bon, l'État n'a pas besoin de le faire pour elles. L'État existe pour rendre un certain nombre de services aux populations. Et lorsque ces populations-là sont en mesure de satisfaire ces besoins elles-mêmes, donc elles n'ont pas besoin de l'État, et elles le feraient d'ailleurs mieux que l'État. Donc à chaque fois que c'est possible, donc nous qui avons ces valeurs d'autonomie et de liberté, ça devient notre préférence. Donc si le président Abdou Diouf avait dit moins d'État, mieux d'État, c'est parce qu'il s'est rendu compte que peut-être que dans certains domaines, il était tout à fait possible que l'État puisse faire de la place à d'autres qui feraient le travail mieux et que l'État puisse se concentrer, n'est-ce pas, sur les choses que les autres ne peuvent pas faire. Et la conclusion, la conséquence serait mieux d'État. Moins d'État, mieux d'État. Mmh. On l'a fait en partie, comme vous avez dit, dans ces années, lors de ces années d'ajustement structurel, mais nous avons toujours trop d'État.
Toujours trop d'État.
On a toujours trop d'État.
Voilà. Autant que faire se peut, on va faire preuve de pédagogie parce que, comment dire, on parle d'économie.
Voilà.
On va utiliser un langage plus ou moins accessible
aux populations. Tout à
voilà.
Fait.
Vous partez du constat que le Sénégal est en ajustement budgétaire.
Oui.
En termes simples,
oui.
Cela veut dire quoi?
Non, cela veut dire qu'en termes budgétaires, en termes simples, c'est-à-dire que, bon, nous savons tous hein, que le président Abdoulaye Wade donc eu des réalisations lors de son mandat, des infrastructures qui ont été faites, tout le monde peut le constater, tout le monde peut le voir. Mais donc tout ça a été fait avec de l'endettement. Ça veut dire que nous avons dépensé beaucoup plus d'argent qu'on en avait et nous sommes réendettés donc, auprès de bailleurs étrangers. Et notre déficit budgétaire, donc nos dépenses, étaient beaucoup plus élevées que nos recettes. Et il a fallu nous endetter de façon significative pour que le président Watt puisse donc faire toutes ces réalisations que nous constatons physiquement. Mais la conséquence, c'est que quelqu'un comme le président Macky Sall, lui, doit ajuster cela. Parce que la dette s'est reconstituée, le déficit est trop élevé. Donc là, lui, il est obligé de le réduire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2012, le budget de l'État est en constante réduction, donc en pourcentage du PIB. Bon, c'est vrai, on essaie un peu d'expliquer les choses de façon compréhensible. Bon, vous entendez toujours l'État vous dire, oui, le budget, il est à 3 000 milliards, il est à 3 200 milliards, il est à 3 500 milliards. Ce n'est pas le plus important. Un budget d'un pays augmente toujours d'une année à l'autre parce qu'il y a croissance. Quand il y a croissance, il y a des recettes plus importantes. Les prix augmentent normalement dans tout pays, donc l'inflation. Donc, quand vous prenez la croissance et l'inflation, le budget donc augmente d'une année à l'autre. Mais par rapport au poids de l'économie lui-même, n'est-ce pas ? Ce budget-là, en termes de déficit qui était d'à peu près 5 à 6%, est en constante réduction depuis 2012. Et c'est nécessaire. Le gouvernement actuel est en ajustement budgétaire et ils en sont, je pense, actuellement à peu près autour de 4% de déficit du budget de l'État à réduire.
Donc, et voilà. Votre conviction, c'est que la solution, elle n'est pas budgétaire, elle est monétaire.
C'est ça.
Mais en disant cela, vous semblez minorer un peu l'impact social des réalisations faites grâce au budget sur le vécu des populations. Vous semblez minorer cela.
Non, je ne minore pas. Je ne minore pas parce qu'en fait, je considère que ça va de soi. Bon, si vous voulez, donc l'économie marche, les populations paient leurs impôts et elles paient leurs impôts pour que l'État puisse leur rendre un certain nombre de services. Ce ne sont pas ces services-là qui font le développement, mais c'est l'économie et les activités des populations qui paient des impôts et qui ont besoin de services publics en retour. Ces services publics en retour, donc prioritairement, c'est la santé, c'est l'éducation, n'est-ce pas ? Ce sont les infrastructures de base, l'assainissement, etc. Ce sont des services publics que les populations donc, ne peuvent pas s'offrir elles-mêmes, n'est-ce pas ? Donc elles paient des impôts et sont en droit de recevoir en retour ces services-là, vous voyez ? Bon, alors, donc, si vous voulez, maintenant nous avons un État qui, en plus de ses services publics, peut-être essaie de développer l'économie en peut-être boostant donc l'injection d'argent, ce que Abdoulaye Wade disait. Bon, je vais investir beaucoup dans les infrastructures pour booster notre économie. Il l'a fait en s'endettant. La conséquence, c'est quoi ? On est endetté, on n'est pas plus avancé. Vous voyez ? Bon, toutes ces ressources qui ont été injectées dans le pays, empruntées à l'étranger, sont sorties du pays. En importation, bon, vous savez, pendant tout le mandat d'Abdoulaye Wade, nous avons eu beaucoup de nos jeunes qui sont partis à l'étranger dans les bateaux, tout simplement parce qu'ils ne trouvaient pas de travail. Donc ça, ce que ça veut dire véritablement, c'est que ce n'est pas parce qu'un État dépense beaucoup d'argent et peut vous montrer beaucoup de réalisations physiques que vous pouvez voir que cet État-là a eu un impact sur votre vécu, sur votre vécu quotidien. Malheureusement, depuis 1960, nos politiciens pensent que c'est le budget de l'État qui va développer le pays. Et je disais lors de ma première sortie, ma première déclaration à la RTS, lors de cette élection, que c'est la raison pour laquelle, quand nos autorités nous parlent de bilan, ils ne nous parlent que de bilan de réalisation physique. Alors que le bilan le plus important est le bilan de chaque Sénégalais. Est-ce que mes conditions de vie à moi se sont améliorées entre 2012 et 2017 ? La réponse à cette question, si elle était positive, donc le bilan est positif. Mais le bilan ne peut pas être un bilan de dépenses du budget de l'État dans des réalisations physiques qu'on peut voir, mais qui n'ont pas d'impact du tout dans le vécu des populations.
Justement, vous soutenez qu'on n'est pas sur la bonne voie parce que depuis 5 ans, à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, on s'est trompé de vision.
Tout à fait.
Parce que notre politique de développement est basée sur une vision socialiste.
Tout à fait.
Qui prône un peu l'intervention étatique.
C'est ça. Absolument. C'est-à-dire que c'est une vision qui et 90% des Sénégalais, en fait, pensent comme ça. Je l'ai remarqué. Oui. 90% des Sénégalais pensent comme ça. Le développement, donc, c'est un plan. C'est un plan de développement qui va le faire. Bon, ce qui fait que tous les régimes socialistes qui se sont succédés jusqu'en 2000 avaient eu des plans. Abdoulaye Wade a eu ses plans. Plan Reva, plan Omega, plan ceci, plan cela. Macky Sall a son plan émergent. C'est une culture de plan. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas possible de se développer avec un plan, mais ça dépend du contexte, ça dépend de la culture. Des pays comme la Chine ont eu des plans, d'autres pays émergents ont eu des plans, mais ces plans-là ont été bien ficelés, suivis dans la discipline, avec une administration capable de le faire et un système politique qui permet, n'est-ce pas, de mettre tout le monde sur les rangs et de l'exécuter comme il faut. Alors, ce n'est pas notre culture, malheureusement. Alors, depuis Senghor, on a essayé de nous développer avec l'État. Ça s'est soldé par un échec. D'ailleurs, quand il quittait le pouvoir, il disait, bon, tiens, je vous laisse le pouvoir à Abdou Diouf, c'est un orfèvre en matière économique. Il y a un ajustement que nous allons faire pendant... Ça ne va durer que 3 ans, ça va être très difficile, mais après, les choses vont s'améliorer. Cet ajustement a duré 20 ans. Vous voyez ? Donc Diouf a réussi à mettre tous les signaux au vert en ajustant le budget, le déficit qui était trop élevé, gérant la dette, et donc faire en sorte que cette dette qui avait été empruntée a été annulée. Donc Wade est arrivé, tous les signaux étaient au vert, mais il avait aussi, lui, la même culture que les autres.
Justement, depuis Abdou Diouf, on parlait de désengagement de l'État.
C'est ça.
Et là aussi, les conséquences de ce désengagement étaient quand même socialement catastrophiques.
Oui, en fait, vous savez, encore une fois, l'État n'est que le résultat de son économie. L'État, il n'est que le résultat de son économie. La question est de savoir, quand vous avez des dépenses publiques qui sont beaucoup plus élevées que les recettes que vous avez, c'est un constat. C'est-à-dire que quand on dit « mom sabop »,« monel sabop », toutes les dépenses que vous voulez, vous pouvez les avoir en termes de services publics, mais il faut savoir les financer. Si vous ne les avez pas vous-même, vous allez devoir les emprunter. Et si ceux qui vous les prêtent décident que vous n'en faites pas un bon usage et qu'ils ne vont plus vous le prêter, vous êtes obligé de réduire votre budget. Il suffit de demander à tout père de famille. Tout père de famille qui dépense beaucoup plus que son salaire va se retrouver donc à emprunter. La première fois, il n'y a pas de problème. La deuxième fois, il n'y a pas de problème. La troisième fois, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il arrive un moment où la banque elle-même vous dit, monsieur, je ne peux plus vous prêter. Il va falloir que vous réorganisiez un tout petit peu votre budget de famille. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Nous avons beaucoup emprunté, nous avons beaucoup dépensé. Nous avons pensé que notre État pouvait nous développer de bonne foi. Et c'était peut-être même la culture au niveau international. Industrialisation, infrastructure, on a dépensé de l'argent. Et nous ne nous sommes pas développés, nous n'avons pas eu de croissance. Vous voyez ? Et ceux qui nous prêtaient cet argent pour qu'on mène cette politique se sont arrêtés à un moment donné parce que nous n'arrivions plus à les rembourser. Alors, conséquence, il a fallu s'ajuster budgétairement. La conséquence, bien évidemment, on la connaît tous, hein, les ajustements structurels ont été difficiles et durs. Ils ont été difficiles et durs, mais nous n'avions pas tellement le choix parce que nos bailleurs n'étaient plus disposés à nous financer nos déficits. Voilà.
Ils sont aujourd'hui, résultat de tout cela, les Sénégalais se plaignent de Kibé Amou Khalis. Et ça. Là, vous confirmez, notre pays, le Sénégal, a un problème d'argent. Mais avant d'en venir effectivement à ce constat préoccupant, donc on va écouter le portrait, votre portrait effectivement, signé par Gagne Tirisek. Voilà.
C'est en 2012 que le Sénégalais le découvre en tant qu'homme politique. Pas tous d'ailleurs, car il n'aura pas eu le temps de dérouler sa campagne, son programme encore moins. Après avoir servi pendant une quinzaine d'années au FMI, l'homme décide de démissionner de ses fonctions pour s'engager auprès des populations entre le prestige, les avantages du poste et la poursuite de son idéal. Le choix est vite fait. Pour ça, docteur, je vous tire mon chapeau. Des idées, le docteur Sarr en a à revendre. La plus révolutionnaire est celle de la monnaie nationale complémentaire, SEN, utilisable comme moyen d'échange. SEN Khalis signerait-il alors la mort du CFA? Une question à laquelle le spécialiste des questions monétaires répondra certainement avec beaucoup de plaisir. Il rêve aussi d'un Sénégal décentralisé en cité-région autonomes dans lesquels les citoyens sont en mesure de satisfaire leurs besoins là où ils vivent. Ce n'est pas un air de déjà-vu avec les pôles urbains de développement. Bon, ce sera encore une question pour vous. En tout cas, pour ces législatives-ci, il est la tête de liste du mouvement Mom Sabop, Menin Sabop, candidat malheureux lors des présidentielles passées. Aujourd'hui, plus que jamais, il compte sur sa formation, son expérience, son engagement et ses réalisations au plan personnel, dira-t-il, pour convaincre. Merci d'être venu chez nous. Vous avez alors 90 minutes pour convaincre les citoyens qui vous écoutent.
Merci donc, Gagne Tirisek. Monsieur Sarr, votre commentaire?
C'est un portrait qui est fidèle et donc elle a un peu touché deux de nos propositions phares. Mm-hmm. Pour ces législatives, nos propositions sont au nombre de trois. La troisième proposition est l'autonomisation des populations, n'est-ce pas, dans les services d'éducation et de la santé. Okay. Sinon, effectivement, j'étais au Fonds monétaire international pendant une quinzaine d'années. Donc j'avais démissionné en 2011 pour venir au Sénégal.
Voilà, nous allons revenir largement sur vos trois cahiers, mm-hmm. et tous vos trois cahiers, et un quatrième cahier qui est presque vide, mais on va y revenir. Voilà, je disais tantôt justement que les Sénégalais se plaignent de Kébi Amoukhalis, mm-hmm. et vous confirmez, le Sénégal a un problème d'argent et la solution... c'est la sortie du franc CFA. Mm-hmm. Et même sur ce point, on a l'impression que votre position a évolué. Parce mm-hmm. que dans un premier temps, mm-hmm. vous proposiez un modèle mixte, mm-hmm. franc CFA, mm-hmm. monnaie locale. Mm-hmm. Et aujourd'hui, vous dites tout simplement qu'il faut sortir mm-hmm. Donc du franc CFA. Mm-hmm.
Non, j'explique toujours. En fait, y a, quand les gens m'écoutent, effectivement, bon, parce que la matière est assez complexe. Donc il arrive qu'il y ait une incompréhension. Des fois les gens pensent que donc monsieur Sarr dit qu'il faut introduire une monnaie donc locale et sortir du franc CFA. Des fois ils pensent que je dis qu'il faut donc maintenir le franc CFA et y ajouter une monnaie locale complémentaire.
Et peut-être que c'est pas si voilà, cette confusion, hein? Est-ce que c'est pas entretenu par vos déclarations, parce que dans un premier temps vous dites qu'il faut une monnaie complémentaire,
oui,
d'accord?
Absolument.
Et hier, lors de votre passage, je crois que à la RTS, vous dites que bon, il faut sortir
de
la zone.
Oui, oui. Non, absolument. C'est-à-dire que je dis toujours qu'il y a deux sujets qui sont différents. Il est absolument nécessaire pour que les Sénégalais le comprennent. D'ailleurs, il faut que toute la population, quel que soit leur niveau, mm-hmm. Donc doivent s'approprier cette question, parce que notre problème est principalement là. Donc le premier problème, c'est d'abord le CFA lui-même. Le franc CFA lui-même, donc c'est une monnaie que nous avons en commun, 8 pays de l'UEMOA, je ne parle même pas de la CEMAC parce que c'est deux monnaies qui sont différentes. Nous avons une monnaie à nous, c'est l'UEMOA, c'est le franc CFA de l'UEMOA. Cette monnaie se trouve être garantie, n'est-ce pas, par la France, le trésor français. La première chose à faire, et la garantie en question, c'est que nous avons nos réserves de change, donc principalement des euros qui sont dans le trésor français et qui garantissent donc la parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro. Donc 1 euro égale 655 à peu près franc CFA. Bon, donc la première réforme à faire, c'est vraiment s'émanciper de cette garantie française, prendre nos réserves de change qui sont au trésor français et les garder là où le monde entier garde ses réserves. Personne ne garde ses réserves de change dans le trésor dans notre pays, n'est-ce pas? Ce sont ces réserves qui garantissent la monnaie, donc on devrait pouvoir nous émanciper de la France. Donc ça, c'est la première chose, vous voyez? La deuxième chose, c'est que quelle que soit votre monnaie, bon, elle est arrimée donc à l'euro. L'euro est une monnaie qui est assez forte, bien qu'elle se soit dépréciée donc récemment, n'est-ce pas? Mais elle représente la force de la France et de l'Allemagne, et principalement d'ailleurs de l'Allemagne. Donc l'euro en tant que monnaie et le franc CFA en tant que monnaie arrimée à l'euro ne peut pas être la monnaie qu'il nous faut pour notre économie. D'accord ? Donc ça c'est le sujet de la monnaie que nous avons en commun qui est le franc CFA, qui ne doit d'une part ne plus être garantie par la France et de deux, cette monnaie ne devrait pas nécessairement être arrimée à l'euro parce qu'il est trop fort. Ça c'est un sujet.
D'accord. On reste sur ce sujet et permettez-moi, à vous entendre, on se demande si vous n'êtes pas l'envoyé du FMI, parce que l'FMI tient le même discours, à savoir que le régime de change fixe entre l'euro et le franc CFA est économiquement contre-productif parce qu'il prive les pays qui l'ont adopté de 2 points de croissance. Donc c'est pratiquement le même discours que le FMI.
En fait, au FMI, et ça peut-être il faut que les gens le comprennent, quand le FMI vient dans un pays souverain, il peut aborder la question du taux de change et donner un conseil. Par exemple, moi, j'étais économiste du Maroc pendant 3 ans. Depuis 2002, le Fonds monétaire international dit au Maroc que le Maroc doit flexibiliser son taux de change pour mieux accompagner son économie et son industrialisation. Depuis 2002. Mais quand on va au Maroc, on a un pays souverain devant nous qui gère sa monnaie de façon souveraine. Donc, le conseil peut être donné. Lorsque vous venez en zone UEMOA et que vous avez un dialogue avec l'État sénégalais, vous ne pouvez pas lui parler de monnaie. Parce que le Sénégal n'est pas souverain sur sa monnaie. Le Sénégal a décidé, c'est une décision déjà prise, que sa monnaie est commune à 8 autres pays et ce n'est pas un sujet de discussion. Ce qui fait que quand le FMI vient ici au Sénégal, il ne discute que le budget avec l'État et ne donne que des conseils qui sont donc en accord avec cette option que le Sénégal a prise, qui est de ne pas toucher à sa question monétaire. Alors, ce qui fait qu'il est difficile pour le Fonds monétaire donc d'aborder ce sujet, en tout cas ici au Sénégal. Ils peuvent l'aborder peut-être lorsqu'ils font ce qu'on appelle la surveillance régionale, c'est-à-dire le dialogue qu'ils ont annuellement avec la BCAO et les institutions de l'UEMOA. Ils ont le même dialogue avec la CEMAC annuellement. Ils peuvent aborder ce sujet. Mais ils ne l'abordent jamais ici. D'ailleurs, si vous posez la question au représentant du FMI ici, qu'est-ce que vous pensez du franc CFA, ce qu'il va vous répondre, c'est à vous de décider de votre régime de change. Mais une fois que vous avez décidé de votre régime de change, moi, je vais vous donner les conseils qui sont compatibles avec le choix que vous avez fait. Mais vous, Sénégal, vous avez décidé de ne pas être souverain sur votre monnaie. Donc, ce n'est pas le ministre des Finances ni Macky Sall qui peut décider donc de la politique donc monétaire. Donc de ce fait, ça ne fait pas partie du débat.
Maintenant, pour ce qui est de ce divorce avec l'euro, les conséquences peuvent être comment dire désastreuses pour notre économie. Il y a déjà ce qui se rappelle des conséquences de la dévaluation du franc CFA. Je crois que dans les années 90. Oui. Mais il faut bien les rassurer, ces gens-là. Oui.
Non, absolument. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, certains peuvent penser que ma position change, a évolué sur la question.
Absolument.
Voilà. Alors, ce qui n'est pas... Je disais tout à l'heure que le premier sujet, donc, était le sujet de notre monnaie. Donc, on devrait pouvoir garantir nous-mêmes, parce que nous avons des réserves de change suffisantes. Mais on n'est pas assez majeur, ou on n'a pas assez démontré notre majorité, je dirais, pour garantir cette monnaie nous-mêmes sans la France. C'est comme si la France ne nous garantissait pas, peut-être qu'on ne serait plus ensemble. Donc si on veut rester ensemble, il faut qu'on se dise, on va rester ensemble, nous avons une banque centrale commune, nous avons une monnaie commune, qui peut ne plus s'appeler CFA, on peut l'appeler autre chose, et donc la garantir nous-mêmes et rester ensemble, sans la caution de la France. Vous voyez ? Donc ça, c'est un premier sujet. Donc une fois qu'on a cette monnaie, et comme je disais tout à l'heure, elle peut être trop forte pour notre économie, parce qu'elle a la force de l'euro. Quand l'euro lui-même donc est trop fort pour la France, trop fort pour la Grèce, trop fort pour l'Italie, trop fort pour le Portugal, encore moins nous, hein, c'est pas notre monnaie. Alors, donc ça c'est le premier sujet à régler. Maintenant, il se trouve que quand quelqu'un vous dit ça, la question immédiate qui vient, c'est la question que vous venez de poser, alors maintenant, est-ce que donc vous proposez qu'on en dévalue, hein? Puisque vous dites que l'euro est trop fort, le CFA est trop fort, est-ce qu'il faut dévaluer? La réponse que je vous dis, c'est qu'effectivement, si cette monnaie devait flotter et ne plus être fixe comme ça, il se pourrait très bien que ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit moins forte et qu'elle soit dévaluée, pour que justement on soit plus compétitif.
Avec toutes les conséquences, l'inflation, la déstructuration de nos économies, tout cela.
Oui, bon, en fait, tu sais, hein, vous savez, les monnaies, elles fluctuent, hein, elles sont tout simplement le reflet de la force de votre économie. Je dis donc, normalement, si cette monnaie fluctuait, et que moi je n'en décide pas, et vous n'en décidiez pas, quel aurait été son niveau, n'est-ce pas? Son niveau aurait été le niveau approprié. Quel est ce niveau approprié? Là, c'est la réalité qui l'imposera, n'est-ce pas? Alors, je dis dans beaucoup de mes rapports que justement, à cause de toutes les conséquences d'une dévaluation, nos dirigeants préfèrent toujours ne pas toucher à la monnaie. On dit, ok, si on ne touche pas à la monnaie, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour régler mon problème? Mm-hmm. On vous dit, ah, si vous ne touchez pas à votre monnaie, il faut faire le maximum de réformes structurelles pour être le plus compétitif possible, n'est-ce pas? Il faut vous assurer que votre budget n'est pas un déficit trop important, de telle sorte, véritablement, à être compétitif, puisque vous ne voulez pas toucher à votre monnaie. C'est ce qu'on a toujours fait.
Donc, vous estimez que c'est un cercle vicieux et que ce que vous proposez comme innovation, disons, c'est la création d'une monnaie locale, la SEN.
Voilà. Donc, moi, je dis, écoutez, je vous propose une solution de compromis. Est-ce qu'il faut sortir du franc CFA? La réponse, elle est oui. Comment, en sortant la garantie de la France, et vraiment nous prendre notre destin en main, sortir nos réserves, garantir notre monnaie? Maintenant, si nous décidons que nous ne voulons pas toucher à la parité du franc CFA par rapport à l'euro, nous ne voulons pas dévaluer, n'est-ce pas, le franc CFA, parce qu'il a certains avantages. Bon, certains de nos chefs d'État l'ont dit, hein, il y a certains avantages que, qu'on peut trouver en une monnaie. Je ne dirais pas franc CFA, je parle, il y a un avantage à avoir un taux de change fixe. Ça impose une certaine discipline. Hein? Ça vous évite, lorsque vous dépensez beaucoup trop d'argent, puisque le taux de change il est fixe, lorsque vous dépensez trop d'argent, ça se traduit très souvent en des pertes, en des sorties, des importations, etc. Donc la fixité du taux va faire que lorsque vous dépensez trop d'argent, planche à billets ou déficit budgétaire, etc., vos importations vont augmenter, vous allez avoir un déficit de la balance commerciale très importante. Puisque vous voulez garantir le taux, n'est-ce pas, de change que vous avez, vous allez à un moment donné perdre vos réserves. C'est ce qui nous est arrivé dans les années 80-90. Jusqu'à arriver à un moment donné, on n'avait plus les réserves de change nécessaires pour garantir cette parité à laquelle on ne voulait pas toucher. En 1994, donc l'inévitable est arrivé, il fallait absolument dévaluer, il n'y avait pas le choix. Il a fallu nous imposer cette dévaluation parce qu'il n'y avait pas d'autre option et les populations étaient fatiguées, donc d'un ajustement interminable qui n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est tout simplement de dévaluer. On absorbe le choc. Si on l'avait fait en 1983 ou 1984, nous aurions eu 20 ans de croissance. Mais on a préféré ne pas toucher au taux de change. Nous nous serrer la ceinture pendant 20 ans. Ce n'est pas soutenable.
Mais comment la monnaie locale, effectivement, va-t-elle être une alternative?
Voilà, c'est ça la question.
Mais avant même d'en venir à cette monnaie locale, sur votre page Facebook, vous avez affiché un spécimen de cette monnaie locale avec la photo de Vadio Diogo.
Tout à fait.
En passant, pourquoi Vadio Diogo?
Non, parce que moi, il y a une intervention que Vadio Diogo a faite à la place de l'indépendance. Je l'écoute à fréquence régulière, d'ailleurs. Bon, il a eu le courage de dire au général de Gaulle, quand Mamadou Dia n'était pas là, Senghor n'était pas là, Mamadou Dia, Vadio Diogo lui a dit indépendance d'abord. L'indépendance que nous voulons n'est pas une indépendance à l'intérieur de chaque territoire. Mais nous voulons donc garder donc les solidarités de l'AOF que nous avions. Bref, c'était vraiment
une façon pour vous de magnifier un peu
une volonté d'autonomisation, d'indépendance véritable.
Maintenant, la viabilité de cette monnaie locale, la SEN.
Alors, donc, ça vous permet donc de vous parler du deuxième sujet qui est différent de la question donc monétaire, du taux de change, du régime de change. Il flotte, il est fixe, il est garanti comment? Quelle que soit la monnaie que vous avez. Maintenant, quelle que soit la monnaie que vous avez, le deuxième sujet, c'est le financement de l'économie en cette monnaie. Donc, même si on avait une monnaie formidable, qui n'est pas trop forte, n'est-ce pas, qui n'est pas garantie par la France, qu'on appellerait autre chose que le franc CFA, le problème du financement de l'économie demeurerait. Alors, au Sénégal, 90% de la population, c'est selon les estimations, n'a pas de compte bancaire. Alors que c'est le crédit bancaire qui fait le financement d'une économie dans le monde entier. Donc lorsque vous avez 90% de votre population qui n'a pas de compte bancaire, vous avez un problème. Les gens n'ont pas de compte bancaire pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas assez d'argent en poche pour faire des allers-retours à la banque. Même quand ils ont un compte bancaire, on leur vire leur salaire, ils le retirent tout de suite. Parce que bon, tout le monde fait ses dépenses en cash, n'est-ce pas? Donc les populations sénégalaises ont leur argent en poche. Ok. Puisque le crédit bancaire, c'est ce qui fait l'économie, il faudrait qu'on trouve un moyen de bancariser les populations sénégalaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse en sorte que l'argent qui est dans la poche des Sénégalais, qui n'ont pas de compte bancaire, puisse se retrouver en banque, n'est-ce pas? Déposé dans une banque, de telle sorte à pouvoir les financer. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous parlez de, on vous parle d'Orange Sakalpé, on vous parle de Vitfé, on vous parle de Tigo Cash, la monnaie électronique, etc. L'objectif, c'est faire en sorte que les populations prennent cet argent qui est dans leur poche, mettent ça dans un portefeuille électronique, n'est-ce pas, de telle sorte que cet argent puisse se retrouver déposé dans une banque. Alors, il se trouve que les Sénégalais ne seront pas bancarisés comme ça à cause de l'analphabétisme. Donc, vos achats, vous ne pouvez pas les faire électroniquement. Alors, nous disons, si les Sénégalais acceptent d'acheter un moyen d'échange qui peut être sous une forme physique, donc quelque chose qu'on peut toucher du doigt, ou sous une forme électronique et l'utilisent dans leurs transactions de tous les jours, l'argent, donc les francs CFA qui étaient par devers eux, qu'ils vont utiliser pour acheter cette monnaie, donc ce moyen d'échange, serait dans un fonds. Ce fonds serait un fonds à eux. On l'appelle un fonds commun d'investissement et de garantie. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'en une fois, vous avez presque bancarisé tout le monde. Vous avez financièrement inclus tout le monde. En faisant quoi ? En tout simplement les convaincant d'acheter un moyen d'échange que nous appelons SEN, SEN comme Sénégal, comme l'ingénement, hein, et qu'ils l'utilisent dans leurs transactions, dans leurs échanges de tous les jours, ou en le mettant tout simplement dans leur poche, comme vous, vous auriez mis dans votre poche peut-être votre carte bancaire, ou vous auriez mis dans votre poche votre Orange Sakalpé, qu'ils achètent ce moyen d'échange sous une forme physique si c'est leur préférence, sous une forme électronique si c'est leur préférence, et qu'ils l'utilisent dans leurs transactions de tous les jours. La conséquence, c'est que les francs CFA qu'ils auraient utilisés pour acheter cette monnaie seraient dans un fonds.
Mais l'objectif de ce fonds commun d'investissement, c'est de permettre l'accès facile au crédit, voilà, au financement des activités génératrices de revenus.
Voilà.
On va être un peu concret pour nous éloigner de cette démarche théorique.
Oui.
Moi, j'ai 50 000 francs, citoyen lambda.
D'accord.
Et je veux financer un projet de 2 millions de francs CFA.
Oui.
Comment ça va se passer?
Ah non.
Je n'ai pas de garantie.
Oui. Non. C'est-à-dire que...
C'est très concret.
C'est très concret et la réponse, c'est que ça ne se passera pas comme ça.
Ah d'accord. Ça se passera comme
ça. Ouais, ça ne se passe pas comme ça. Bon, alors donc, voilà comment ça se passe. La première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de bancariser tout cet argent. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. J'aime bien donner cet exemple-là. Vous et moi sommes assis, donc en studio, en train de discuter. Donc j'ai de l'argent en poche, des CFA, et vous aussi, vous avez de l'argent en poche certainement. Donc pendant toute la durée de notre conversation, on va convenir que cet argent n'aura pas travaillé parce que nous sommes tous les deux en studio. Par contre, si on avait acheté tous les deux les scènes dont j'ai parlé, version physique ou électronique, et qu'on entre en studio, on est d'accord que les CFA qu'on aura utilisés pour acheter auraient pu travailler le temps que notre émission se fasse. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cet argent va être dans le fonds commun d'investissement et de garantie, il pourra être investi dans beaucoup d'actifs, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure que ce fonds, il va être investi dans quoi? Je vais vous donner des exemples. Et les gens se sont posés la question de savoir pourquoi M. Sarr, lors de cette campagne électorale, fait le tour des marchés. J'ai fait le tour des marchés de Dakar, je suis allé voir les cordonniers, je suis allé voir les artisans. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour prouver que ces gens-là ont besoin de financement et de quel type? Ils ont besoin de centres commerciaux de qualité. Dans tous les pays émergents, ce ne sont plus les marchés que vous trouvez à Dakar qui sont les mêmes depuis que moi j'étais tout petit qui sont là. On doit pouvoir investir.
Mais les centres commerciaux prolifèrent à Dakar.
Pardon?
Les centres commerciaux, je dis, on en trouve assez à Dakar.
Oui, on n'en trouve pas assez à Dakar. C'est-à-dire que si moi je fais l'inventaire des grands marchés de Dakar, les grands marchés de Dakar qui sont là depuis 50 ans, il n'y a pas eu d'évolution. Les grands marchés, HLM, Tilène, Sandaga, vous voyez, les grands marchés. Alors ces marchés-là devraient pouvoir moderniser. En 60 ans, elles devraient avoir, elles auraient dû être autre chose. Vous voyez, les conditions dans lesquelles les commerçants y sont ne sont pas des conditions acceptables et ne correspondent pas à ce qu'on appelle le développement. Alors moi je dis, le fonds commun d'investissement et de garantie dont je vous ai parlé tout à l'heure pourra être investi dans un certain nombre de choses. Dans des centres commerciaux. Je ne dis pas des centres commerciaux pour rien, c'est un actif physique réel, utilisé par des commerçants qui en ont besoin et qui paient un loyer, peut-être, et qui va faire en sorte que le fonds dont je vous ai parlé puisse avoir des ressources, des recettes. Les artisans ont besoin de matériel. n'est-ce pas, ce matériel-là, ils ne sont pas en mesure de le financer, de l'acheter. Ce fonds commun d'investissement de garantie pourra l'acheter.
Et moi, un citoyen lambda sans emploi, oui, que puis-je attendre de ce fonds-là?
Ah non, un citoyen lambda sans emploi, le fonds en question, parce qu'un fonds, il est géré, c'est un portefeuille, n'est-ce pas? Il y a une partie qui sera dans des actifs réels, comme je viens de dire, donc les centres commerciaux. Il y a une partie qui sera dans du matériel qui peut être donné en leasing, n'est-ce pas, comme du matériel, des outils de travail pour les cordonniers, etc. Il y a une partie, moi je dis toujours que Dakar Demdik par exemple, aurait pu appartenir à ce fonds-là, n'est-ce pas, et il est très possible d'avoir dans ce fonds une partie qu'on appellerait un fonds d'amorçage. Un fonds d'amorçage, parce que bon, comme vous savez, les fonds d'amorçage c'est assez particulier, parce que c'est extrêmement risqué. Donc ce fonds qui appartient à toute cette communauté qui achète le SEN sous une forme physique ou électronique et qui l'utilise dans ses transactions de tous les jours, on ne peut pas utiliser tout ce fonds-là en fonds d'amorçage. Par contre, une partie pourra être... Enfin, ce sera une décision souveraine. Encore une fois, je suis pour l'autonomie, je suis pour la liberté, je suis pour la responsabilité. C'est-à-dire, la gouvernance de ce fonds, ce sont ces mêmes personnes qui auront acheté le moyen d'échange et les entreprises qui l'acceptent qui vont être dans sa gouvernance. Ce sera à eux de décider, n'est-ce pas? Ce ne sera pas à moi, ce sera à eux de décider dans quel type d'investissement ils veulent mettre ces fonds-là, parce que ce sont ces mêmes fonds qui garantissent en partie donc ce moyen d'échange qui circule entre eux.
D'accord. Vous avez parlé d'autonomie, de liberté donc, et de responsabilité, un triptyque que vous appliquez à tout. Donc, à tout. ça va nous permettre de fermer un peu le premier cahier. Ouais.
Je
rappelle, réforme monétaire et inclusion financière pour ouvrir le second après.
Oui, je vais juste conclure, parce que je n'ai pas totalement répondu à votre question. Je vous ai dit comment est-ce que le fonds commun d'investissement et de garantie allait être utilisé pour dégager des ressources et pouvoir, n'est-ce pas, permettre à l'institution maîtrise de cette monnaie nationale complémentaire de bien fonctionner. Mais vous, en tant que citoyen lambda, vous aurez accès à, disons, des fonds de microfinance en cette monnaie donc locale. Ça c'est du crédit qui sera sans intérêt et qui sera sans garantie. Vous m'entendez souvent le dire. Sans garantie parce que c'est le fonds commun d'investissement et de garantie. Investi dans un certain nombre d'actifs qui vont constituer la garantie de toute cette communauté qui aura accès à ce crédit-là, n'est-ce pas? Donc sans intérêt parce que le fonds dégage assez de ressources, sans garantie parce que le fonds lui-même est un fonds de garantie investi dans des actifs physiques réels, générateurs de revenus, n'est-ce pas? Et le crédit en question se fera en cette monnaie, donc moyen d'échange, et il sera donc du microcrédit que les populations pourront obtenir sans intérêt, alors qu'actuellement à 25 ou 100 000 francs les femmes qui vendent du poisson au marché empruntent à peut-être 25% des institutions de microfinance lorsqu'elles ont accès au crédit. Mais quand j'ai fait le marché au poisson, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les dames, elles n'ont même pas accès au financement. C'est des intermédiaires qui eux ont accès au financement, qui achètent le poisson et qui prêtent le poisson aux dames. Donc les dames, non seulement elles doivent dégager donc leurs propres revenus, leurs propres bénéfices, elles doivent payer celui qui leur a prêté le poisson, et ce gars-là, certainement, il a emprunté donc l'argent pour acheter le poisson avec un taux d'intérêt, mais elles ne s'en sortent pas. Elles vont au travail à 4 heures du matin, elles ne rentrent pas chez elles avant 20 heures, n'est-ce pas, pour rémunérer tout le monde sauf elles-mêmes. Vous voyez? Bon, donc voilà, je voulais un peu clôturer le premier sujet de monnaie et son importance.
Le premier cahier, pour le second cahier, vous prenez la gouvernance donc démocratique, ou plutôt un renforcement de la gouvernance démocratique. Donc, les populations seront mieux responsabilisées. Et vous ciblez trois domaines, la santé, l'école, l'environnement. Et c'est vraiment un système
l'agriculture.
démocratique très très poussé dans la mesure où vous prévoyez que ce sont les populations elles-mêmes qui vont choisir les dirigeants des établissements scolaires, des écoles et des centres de santé.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire que donc on applique nos valeurs à ce deuxième sujet, le deuxième cahier. Nous disons Mme Sabop, Mme Sabop, autonomie, responsabilité, liberté. Bon, donc nous avons effectivement, nous avons dit tout à l'heure que le budget de l'État, c'est pour le service public. D'accord? Donc les populations, on a clôturé le premier cahier, n'est-ce pas? L'économie fonctionne, tout le monde travaille, les entreprises travaillent, tout le monde a payé ses impôts. On paye nos impôts et nous avons besoin de services publics, disons très bien. L'école sénégalaise ne marche pas. Elle n'a pas une bonne qualité. La santé non plus. L'environnement, il vous suffit de faire le tour de nos villes pour voir que personne ne s'occupe de l'environnement. Donc la question est de savoir qui est-ce qui a plus intérêt à ce que l'école marche.
Et pourtant, les populations sont responsabilisées.
Du tout.
Elles à travers, non, si, concrètement, à travers des comités de gestion.
Oui.
On trouve des comités de gestion aussi bien dans les écoles que
tout dans, à fait, les... dans la santé. Voilà. Les comités de santé.
Donc, c'est une manière de responsabiliser les populations.
Voilà, je suis très content que l'expression que vous avez utilisée, c'est une manière. Mmh. Voilà, c'est une manière, elle n'est pas totale. Mmh. Oui, nous disons.
Mais est-ce que les parents concernés des populations assument ces responsabilités?
Mmh.
C'est là où se trouve la question.
Non, c'est parce que c'est pas organisé selon les valeurs que nous prenons. De mom sabop, monel sabop. Je disais l'autre jour à la télé que lorsque vous avez une tâche que vous voulez bien faite, il faut vous assurer de deux choses. La première chose, c'est qu'il faut assigner cette tâche à une et une personne seulement. Lui en donner la responsabilité. Parce que d'habitude, lorsque vous assignez une tâche à deux, trois personnes, finalement, on ne sait plus qui est responsable. Donc, vous avez une tâche que vous voulez bien faite, il faut l'assigner à une et une personne seulement. La deuxième chose dont il faut s'assurer, c'est d'assigner cette tâche à la personne qui a le plus intérêt à ce que cette tâche soit bien faite. N'est-ce pas? Lorsque vous appliquez ces deux principes, quelle que soit la tâche que vous voulez bien faite, elle sera faite. Aujourd'hui, nous sommes nous deux en train d'animer l'émission. Mm-hmm. Quelqu'un s'occupe du son, quelqu'un s'occupe d'autre chose. Chacun a sa responsabilité pour que cette émission puisse se passer comme il faut. Dans le cas de l'éducation, à qui est-ce que cette responsabilité... Donc, je dirais... Non, je vais varier dans mes termes. Les parents d'élèves ont le plus intérêt à ce que l'école soit de qualité. Mm-hmm. Nous sommes d'accord. Donc, leur assigner, leur donner le rôle d'être comptable des résultats de l'école, on pourrait donc améliorer la qualité de cette école-là. Donc, si jamais nous prenons les parents d'élèves, dans ces comités, on les appelle comités de gestion, et on leur dit, parents d'élèves, c'est comme un conseil d'administration, hein, on dit, bon, vous êtes le conseil d'administration de l'école, vous êtes comptable des résultats de l'école, n'est-ce pas? Vous pouvez nommer un directeur qui peut ne pas être un enseignant, il peut ne pas être un fonctionnaire et il aura la responsabilité de gérer l'école. Vous voyez, ce directeur-là pourra recruter des enseignants. Ces enseignants-là seront comptables de leurs résultats devant le directeur qui lui-même sera comptable devant le conseil.
Et dans ce modèle, les prérogatives de l'État dans tout cela?
Oui, l'État, ses prérogatives, l'État va venir en soutien.
L'État, donc l'État n'aura plus ce pouvoir de nomination.
L'État n'aura plus ce pouvoir de nomination. On déresponsabilise l'État. On dessaisit l'État pour responsabiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, à les parents d'élèves qui ont le plus intérêt à ce que l'école puisse bien fonctionner et ils seront comptables des résultats. Et ces parents d'élèves peuvent tout à fait externaliser, n'est-ce pas, cette responsabilité à des cabinets privés qui vont compétir pour accompagner les parents d'élèves à bien gérer leur école.
Vous dites qu'on déresponsabilise l'État. Mmh. Moi, j'ai pensé qu'on affaiblit l'État.
Non, parce que l'État, notre objectif, nous, c'est pas de donner de la force à l'État. Un État, il n'existe que pour nous, encore une fois, nous rendre des services publics. L'État ne tombe pas du ciel. L'État, on le crée pour qu'il nous rende un service. Si nous n'avons pas besoin de l'État pour ce service-là, on ne lui assigne pas. C'est ça, en fait. Quand je dis que depuis 60 ans, il y a une certaine culture qu'on doit changer, c'est-à-dire que notre objectif n'est pas de renforcer l'État. Notre objectif, c'est d'avoir un service public chaque fois que les populations ne sont pas en mesure de faire un certain travail elles-mêmes. Parce que lorsque les populations sont en mesure de faire ce travail-là elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de l'État. Donc l'État n'arrive pas avant les
populations. On est un État tout simplement régulateur.
Oui, c'est-à-dire que ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Donc dans le cadre de l'éducation, nous disons, tout le monde est d'accord. Les enseignants du service public ne nous rendent pas le service pour lequel ils sont payés. La plupart d'entre eux ne satisfont même pas leur quantum horaire. Ils vont, en fait, aussi donner des cours privés aux parents d'élèves, hein, après avoir donné le service public. Ça veut dire quoi? Donc, les parents paient deux fois. Ils paient leurs impôts, ils n'ont pas un bon service. Ils paient les enseignants qui sont des fonctionnaires pour des cours privés à leurs enfants parce que les parents d'élèves veulent que leurs enfants aient une éducation de qualité. Donc, nous disons, écoutez, l'État va financer. L'État va s'assurer que tout le monde a le minimum nécessaire dans le pays, quel que soit ses niveaux de revenus. Une éducation de base, donc, disponible, et la Constitution le dit, à tous. Mais ce n'est pas parce que l'État finance. C'est parce que l'État donne des orientations sur le plan organisationnel et pédagogique. C'est pas parce que l'État contrôle que l'État doit être comptable des résultats de l'école. Celui qui doit être comptable des résultats de l'école, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qui a le plus intérêt à ce que cette école-là soit une école de qualité. C'est le parent d'élève. Ce parent d'élève-là, et je donne toujours l'exemple de ma mère qui me dit quand elle est presque la seule dans sa famille à être allée à l'école à un certain niveau, elle me dit que quand elle était petite, sa mère était analphabète. Sa mère l'a amenée donc à l'école. Elle voulait que elle n'avait pas de fils. Et tout le monde amenait son fils à l'école. Elle n'avait pas de fils. Donc elle a dit, je vais amener ma fille. Donc elle va et il leur dit, prenez ma fille. On lui dit que bon, les classes sont pleines, on ne peut plus la prendre. Elle est allée, elle l'a mis dans une école de garçons pour qu'elle puisse étudier. Mais elle a dit à la française qui était maîtresse, elle lui a dit, vous voyez celle-là, elle a touché un peu du doigt donc sa main, son sein pour lui dire, vous faites comme si c'était votre fille. Si elle ne travaille pas, vous la tapez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est analphabète. Elle est parent d'élève. Elle veut que son enfant réussisse. Donc, c'est pas parce qu'on dit responsabiliser les parents d'élèves. Même si les parents d'élèves ne peuvent pas assumer cette responsabilité, ces parents d'élèves pourront externaliser cette responsabilité à des cabinets privés qui en ont toute la compétence et qui vont les aider à gérer leur école. Comme un conseil d'administration peut recourir aux services donc, de cabinets privés par rapport à beaucoup de domaines, hein, l'audit interne, l'audit externe, etc., un certain nombre de choses. Donc, les parents d'élèves responsabilisés nomment un directeur. Et ce directeur n'est pas un fonctionnaire. Il est responsable devant les parents d'élèves et il peut avoir un adjoint sur les questions pédagogiques, il peut avoir un adjoint sur des questions, n'est-ce pas, de gestion, mais il est responsable devant les parents d'élèves. Alors l'État finance, l'État peut venir en soutien, l'État peut aider à bien mieux organiser, suggérer une meilleure organisation.
L'État aura aussi, bien entendu, un droit de regard.
Bien sûr, parce que l'État finance. L'institution sera une institution sous financement public. Donc l'État va venir donc faire des audits pour voir si les choses se passent bien. Donc les enseignants, ils vont être recrutés à ce moment-là par ce directeur, mais ils seront responsables devant le directeur et devant les parents d'élèves.
D'accord.
Et à ce moment-là, si les enseignants ont des revendications, au lieu de s'adresser à l'État, ils vont s'adresser aux parents d'élèves. De toute façon, ce sont ces mêmes parents d'élèves qui les paient en dessous, après l'école, pour des cours privés. À ce moment-là, les parents seront plus à même de ajouter des ressources dans l'école, mais au moins, les parents sont responsables. Alors, ce que je viens de dire n'est pas le cas dans les comités de gestion. Les comités de gestion, la responsabilité est diffuse, en ce sens qu'il y a les parents d'élèves là-dedans. Des fois, il y a le directeur d'école lui-même, il y a les collectivités locales. Des fois, il y a le directeur de l'école qui est un fonctionnaire qui est lui-même le secrétaire général du comité de gestion des fois. Alors ça veut dire que les parents d'élèves ne sont pas exclusivement responsabilisés. Moi, je dis, quand vous avez une tâche que vous voulez bien faire, il faut l'assigner à une personne et une seule personne.
Voilà, c'est clair. La décentralisation, on en parle parce qu'elle occupe une place de choix dans votre programme. Mais quand j'ai vu, c'est d'ailleurs l'objet de votre troisième cahier. Et quand je regarde ça, je ne vois pas tout à fait une nouveauté dans la mesure où le modèle que vous proposez est très proche de l'acte 3 de la décentralisation à deux niveaux. L'acte 3 prévoit des pôles régionaux et de part aussi l'acte 3 consacre donc la territorialisation des politiques publiques. Donc ce que vous proposez n'a rien de très très différent de l'acte 3.
Ah, c'est une différence fondamentale.
Quoi alors? Vous parlez de pôles régionaux par exemple?
Oui, je parle de cité région. Les pôles régionaux, bon, on utilise le terme parce que...
C'est le terme que vous avez...
Oui, c'est-à-dire nos chers compatriotes, c'est-à-dire un consensus national sur une chose. Bon, vous savez, le programme dont je vous parle, ce que je viens de vous dire, était ficelé depuis 2011. Et donc, c'est cette vision que j'ai, guidée par les valeurs que je vous ai présentées, qui ont fait que j'ai démissionné du FMI. Parce que pour moi, c'est vraiment ces valeurs-là, si elles pouvaient guider tout ce que nous faisons au Sénégal, mais on améliorerait beaucoup de choses. Alors, donc, mon programme par rapport à la décentralisation, il n'a pas changé depuis 2011 d'un iota. Mais déjà avec les assises nationales voulaient des pôles régionaux. Macky Sall a ajouté, il avait lu, je pense, 7 pôles, hein, je crois, dans son programme Yo New York, où les assises nationales avaient 6 pôles. Nous avions dit depuis 2011 5 pôles. Et on les a pas un peu, on les a pas créés comme ça par hasard. On a fait des études. Parce que, comment je peux vous expliquer? Vous savez, il y a un phénomène extrêmement important qui est en cours partout dans le monde. C'est l'urbanisation. L'urbanisation est un phénomène extrêmement important de concentration d'êtres humains, n'est-ce pas, dans un espace géographique restreint. C'est une opportunité. D'une part, parce que, bon, la ville est source de demande. Ceux qui sont en ville, bon, ils doivent se nourrir, ils doivent se chausser, ils doivent se mouvoir, etc. Donc c'est un concentré de population dans un espace restreint qui ont des besoins. Et ces besoins peuvent être satisfaits par des communautés qui sont polarisées, n'est-ce pas, par ce centre urbain.
Une ville épicentre.
Voilà, une ville épicentre. Ouais. Donc, étant donné l'importance de ce phénomène, l'Afrique, le Sénégal est actuellement à 48, presque 50% de taux d'urbanisation. Tous les pays émergents, tous les pays développés sont à un niveau d'urbanisation de 80 à 85%. Vous voyez? Et c'est la ville qui fait le développement à cause de ce que je viens de vous dire. C'est une source de demande, c'est une concentrée de population ayant des besoins qui peuvent être satisfaits par des communautés environnantes, n'est-ce pas? Et donc nous avons fait des études pour déterminer quelles étaient les villes épicentres du Sénégal. Quelles sont les villes, de par la diversité des services, de par la concentration de population qui y sont, de par leur éloignement géographique, peuvent constituer des épicentres qui peuvent polariser les communautés qui y sont autour. On a fait les travaux. La conclusion,
quelle ville?
C'est Ziguinchor, c'est Kaolack, c'est Thiès, c'est Pékin, hein, et c'est Saint-Louis. Mais dans les études, il y avait des villes concurrentes. En ce sens que lorsque nous avons Thiès, Mbour était une ville concurrente par rapport aux caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez? Et certains me disent, mais comment ça se fait que Touba n'y est pas?
C'est la question que je t'ai posée.
Voilà, je dis que Touba a une concentration de population importante, c'est vrai. Mais en termes de diversité de fonctionnalité, comme on dit dans l'épicentre, Thiès est beaucoup plus administratif. Il y a beaucoup plus de fonctions à Thiès qu'il n'y a à Touba. Mais bon, ça se discute, hein, rien n'est absolu. Mais des études que nous avons faites, il y avait plusieurs critères, n'est-ce pas, de sélection de villes épicentres. Dans cette région de Thiès, c'est la ville de Thiès qui était retenue.
C'est vrai qu'en tant qu'économiste, on aurait pensé que vous allez choisir Touba, ne serait-ce que d'un point de vue économique.
Non, c'est en fait les critères. Hein. Comme je vous dis, c'était d'abord la population, le concentré de population. C'était ensuite la diversité, n'est-ce pas, donc des secteurs économiques donc de la ville en question. Donc c'était plusieurs critères qui nous ont amenés au choix de Thiès. Mais c'est quelque chose de dynamique, parce que comme je vous dis, lorsqu'on a choisi Thiès, Mbour était concurrente. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, il n'est pas impossible que dans cet espace géographique, que Mbour devienne l'épicentre. Voilà, donc 5 pôles qui ont comme épicentre une grande ville, et nous disons nous cité-région, c'est pourquoi nous disons cité-région, mais puisque tout le monde est habitué au terme pôle régional, nous avons dit 5 pôles autonomisés.
Mais vous êtes d'accord que ça fonctionne sur le principe de la territorialisation, j'y parviens,
oui, des politiques publiques. Là aussi, c'est une erreur. Enfin, non, je ne veux pas dire erreur. Quand ils disent, hein, dans l'actoire de la décentralisation, quand ils disent territorialisation des politiques publiques, ils sont guidés par des valeurs qui sont différentes des nôtres. C'est-à-dire que eux, ils disent, moi, État central, j'ai déterminé une politique. J'ai un plan de développement qui s'appelle Plan Sénégal émergent. Et dans ce plan Sénégal émergent, je veux par exemple, territorialiser mes politiques, c'est-à-dire la politique que je veux mener, je la territorialise, c'est-à-dire qu'elle est mise en œuvre localement.
À partir du pouvoir central.
Voilà, c'est-à-dire que je définis ma politique et je la territorialise. Non, c'est pas ça. Ce que nous disons, c'est autonomiser, responsabiliser. C'est-à-dire, c'est territorialiser la définition même. De ce qu'il y a à faire dans la localité. Et c'est la raison pour laquelle nous disons...
On en revient toujours à la responsabilité.
Voilà. Donc c'est pourquoi nous disons, je m'excuse, que nous sommes contre la notion des conseils de ministres décentralisés. D'ailleurs, si vous allez sur mon site internet, vous allez voir que dès le mois d'avril 2012, le premier conseil de ministres décentralisé, c'était au Saint-Louis. Nous étions contre. Mais puisqu'ils ont débuté à Saint-Louis, il fallait compléter. Et ils ont fait tous les conseils de ministres nationaux. Non. Lorsqu'on territorialise la définition même des politiques, on transfère les ressources, on responsabilise les élus locaux et on les laisse définir, eux, n'est-ce pas, la politique la plus appropriée dans leur localité. Ça, c'est autonomiser, responsabiliser le pôle. Je vais juste conclure en disant que la réponse que les gens nous donnent, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé notre centre d'études, le problème fondamental de la décentralisation au Sénégal n'est pas un problème de texte. Nos textes sont formidables. nous avons un problème de financement. L'État central lui-même étant en ajustement, n'a pas beaucoup d'argent à transférer aux collectivités locales. C'est la raison pour laquelle, bon, dans le budget d'investissement, ils ont peut-être un peu d'argent ici et là, on fait le tour du pays, on demande à chacun ce qu'il veut et on fait ce qu'on peut. Mais au final, rien n'a changé dans ce pays-là. Tu peux faire un bilan de réalisation physique, nous on a vu, des fois dans les lits, mais au final, vous n'avez pas réglé le problème. Nous, dès le départ, nous avons dit que le problème est un problème de financement. Pour que les problèmes locaux puissent être réglés localement, il faut faire en sorte que l'économie locale puisse se développer, qu'elle soit pourvoyeuse d'impôts locaux et que localement les gens puissent satisfaire leurs besoins. Et pour ça, nous avons dit qu'il fallait absolument que les populations puissent avoir accès au crédit, de telle sorte qu'entre les capacités et les besoins, qu'il puisse y avoir de l'argent. Alors quand nous créons nos 5 pôles régionaux et que nous nous basons sur l'épicentre, les épicentres de ces cités régions, c'est parce que nous disons, si les gens achètent le moyen d'échange dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a un lien, et l'utilisent dans leurs transactions de tous les jours, cet argent aura beaucoup plus de chances de recirculer entre des gens qui sont dans une ville parce qu'ils sont interdépendants. De ce fait, ils vont avoir un fonds commun d'investissement et de garantie régionale. Ce fonds commun d'investissement et de garantie régionale est autofinancé parce que dans cette ville épicentre, des gens auront acheté le moyen d'échange dont on parle, l'utiliseront dans leurs transactions de tous les jours, de sorte à pouvoir alimenter ce fonds commun d'investissement et de garantie. Ce fonds commun d'investissement et de garantie pourra être orienté par ces populations dans ce qu'elles pensent être le meilleur. Et si l'État a des ressources à dépenser dans cette localité, il devrait tout simplement leur transférer des ressources additionnelles. La somme de tout ça autonomisera, responsabilisera, fera en sorte que l'économie locale fonctionne.
Et toujours dans le domaine de la décentralisation, vous envisagez donc de tuer Jean pour ressusciter Paul. En termes clairs, vous allez, disons, faire disparaître la CCD et faire revenir le Sénat. C'est quand même bizarre.
C'est
bizarre.
Ça va de soi.
Mais comment consacrer le retour du Sénat alors que pourquoi régler une bonne fois pour toutes cette inflation
institutionnelle? Non, c'est parce que vous faites bien de poser la question. Parce qu'en fait, vous savez, il faut que, et ça donne l'occasion de clarifier quelque chose d'extrêmement important. Les élections législatives au Sénégal ne sont pas des élections législatives véritables. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le régime présidentiel que nous avons, c'est Senghor qui l'a voulu ainsi. Et il l'a voulu ainsi suite, n'est-ce pas, au problème qu'il a eu avec le président Dia. Donc, nous avons un régime présidentiel. Oui. Et nous avons un régime présidentiel à cause de notre vécu. Et il l'a dit très clairement, le président Senghor, le régime bicéphale, je le cite vraiment, nous l'avons expérimenté et il ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il nous a fait une constitution avec un régime présidentiel. Moi, Abdourahmane Sall, je préfère moi aussi un régime présidentiel. Bon, donc il se trouve que les élections législatives au Sénégal ne sont pas des élections législatives véritables. De quoi s'agit-il? Il s'agit de deux élections qui sont organisées en même temps avec des objectifs spécifiques et différents. La première élection, c'est l'élection au scrutin majoritaire. L'objectif de cette élection, donc au scrutin majoritaire, c'est de faire en sorte que le président de la République puisse avoir une majorité et pouvoir mettre en œuvre le programme pour lequel il a déjà été élu. Donc, Raoul Gadou, dans un pays où celui qui a le plus d'argent, celui qui distribue le plus de postes, n'est-ce pas, il a une forte chance et il n'y a pas de deuxième tour dans cette majoritaire. Donc, vous êtes premier avec 25, 26, 30%, c'est vous qui gagnez. Alors, donc, cette première élection, elle est faite pour donner une majorité donc, parlementaire au président de la République pour lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Vous comprenez? Il y a une deuxième élection.
Donc, vous trouvez ça tout à fait normal?
Oui.
Dans un régime présidentiel?
Absolument.
Parce qu'à ce que cette Assemblée nationale soit une chambre, entre guillemets, une chambre d'enregistrement.
C'est-à-dire, c'est entre guillemets. Vous savez, si moi je suis président de la République, je suis élu sur la base d'un programme. Nous allons à une élection législative et j'ai une majorité, c'est moi qui choisis. Ici, par exemple, comment ça se passe? Ils font leur liste et j'envoie les députés à l'Assemblée nationale. Ce sont mes députés. Ils me soutiennent. Ils sont partisans. Je leur envoie des propositions de loi, je leur envoie mon budget pour qu'ils le votent. Bien évidemment, je veux qu'ils me conseillent. Ils vont me dire, Monsieur le Président de la République, nous avons reçu votre budget, nous avons vu vos propositions. Ils peuvent vous donner des observations, ils peuvent essayer d'améliorer le texte, etc. Mais au final, ils sont avec moi, vous comprenez? Ils sont avec moi. On a été élus ensemble pour dérouler un programme. Donc, je veux une Assemblée nationale qui me permette de mettre en œuvre mon programme. Donc ça, c'est le scrutin majoritaire. Il se trouve que, dans le cas du président Macky Sall, son contrat moral avec les Sénégalais est terminé. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il fait un bilan de réalisation physique. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le vrai bilan est le bilan des Sénégalais lambda qui, lui, n'a pas eu. Bon. La deuxième élection qui est différente de la première, c'est l'élection proportionnelle, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y avait pas de proportionnelle, étant donné que c'est du raogadou, le président de la République aurait eu une assemblée nationale 100% acquise à sa cause. Ce n'est pas une bonne chose.
Donc c'est pour un peu diversifier
voilà, la représentation. Voilà, la proportionnelle, elle est faite pour avoir une opposition représentative et un programme alternatif présidentiel, encore une fois. Programme alternatif présidentiel.
Seulement en début de
représenté à l'Assemblée nationale.
En début de je disais qu'effectivement, que votre quatrième cahier est presque vide. Parce que vous ne parlez pas.
Mais j'ai pas quatre cahiers, hein, j'ai trois cahiers.
Non, c'est pourquoi j'ai dit. Il y a un cahier qui manque. C'est le cahier, effectivement, consacré aux réformes institutionnelles.
Non, voilà. Non, mais on n'a pas fini le troisième cahier. Non, parce que vous m'avez demandé.
J'ai feuilleté les trois cahiers.
Non, vous m'avez demandé. Pourquoi bon,
pour le troisième cahier, vous en étiez seulement au retour du Sénat et à la dissolution du ACCD.
Mais ça, je n'ai pas compris.
C'est la seule ligne que j'ai vue.
Oui, mais elle est sur le plan.
Vous n'avez pas développé, en tout cas. Quand vous avez développé les
autres. Non, mais c'est que ça.
C'est quoi vos.
Non, ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que. Donc, la proportionnelle, c'est pour avoir un programme présidentiel alternatif représenté au niveau de l'Assemblée nationale dans notre régime présidentiel. Vous comprenez? Bon, ça n'empêche pas que, bien sûr, qu'on puisse envoyer des députés de très bonne qualité.
Je la préoccupation des Sénégalais au plan national. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez pour un peu rééquilibrer?
Non, j'arrive. Je vous dis que je n'ai pas compris.
D'accord.
Donc, puisque maintenant on vient de comprendre la nature de l'élection législative en cours qui n'en est pas une. C'est pour donner une majorité au président de la République dont le contrat moral est terminé et permettre à l'opposition d'être représentée à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons. Maintenant, nous avons parlé tout à l'heure de création de 5 pôles régionaux, autonomisés et responsabilisés. Ces pôles autonomisés et responsabilisés doivent maintenant être représentés correctement au niveau national. C'est la raison pour laquelle je vous parle d'un Sénat. C'est-à-dire qu'on aurait eu des élections qui aurait envoyé, disons, un représentant de chaque département, ça fait 45 personnes, plus un représentant de chaque pôle, ça vous fait 50 personnes.
Là, on est proche, disons, du modèle américain.
Non, on est dans les principes. C'est-à-dire qu'on est dans les principes, quoi. Les Sénats, il y en a dans plusieurs pays, on est dans les principes. C'est-à-dire que là, vous avez maintenant 50 personnes, hommes et femmes, qui représentent 45 départements et 5 pôles régionaux, qui auront un pouvoir législatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le président de la République va envoyer son budget et ses propositions de loi à l'Assemblée nationale, ses députés à lui, je dis bien députés à lui parce qu'ils sont ensemble, vont regarder, vont lui faire des observations et vont approuver son texte. C'est ce que vous appelez chambre d'enregistrement. Je dis c'est de bonne guerre. Vous voyez? Ensuite, vous avez l'opposition représentée à l'Assemblée nationale qui va dire tout le mal qu'il pense. Qu'elle pense donc de ses propositions du président de la République, mais elles vont passer quand même. Comme dans une chambre d'enregistrement. Maintenant, si ces textes-là et ces propositions vont à un Sénat, où justement les représentants des 45 départements sont là, et les représentants des 5 pôles sont là, avec pouvoir législatif, ce que le président de la République vient de décider et qui vient d'être enregistré par sa chambre d'enregistrement ne pourra pas passer si ces représentants des pôles régionaux ne l'entérinent pas. Alors ça veut dire que si nous avons ça, le contrepoids dont vous parlez, par rapport au régime présidentiel, dans un État décentralisé, qui vient d'être consacré par la Constitution qu'on a votée en mars dernier, à ce moment-là, vous avez effectivement un équilibre.
Donc, carrément, vous proposez une seconde chambre parlementaire.
Absolument. Un Sénat, une seconde chambre parlementaire de représentants venant de 5 pôles régionaux, chaque département représenté avec un pouvoir législatif. Si vous avez ça, vous venez d'équilibrer le régime présidentiel, qui est ma propre préférence. Vous voyez? À ce moment-là, lorsque j'ai mon budget que j'envoie au Parlement, il le passe parce que ce sont mes députés.
Ce que je retiens, c'est que vous ne croyez pas à une Assemblée nationale de rupture parce que nous sommes dans un régime présidentiel. La seule façon de contrebalancer les pouvoirs du président de la République, c'est le Sénat, une chambre parlementaire.
Oui, c'est pourquoi c'est mon troisième proposition. Je vous dis que là-dedans, le réforme institutionnelle, c'est celle-là.
Je vous dis que le président de la République a terminé son contrat moral, donc c'est pour la raison pour laquelle il fait un bilan. Je suis moi pour un régime présidentiel. Les élections que nous sommes en train de tenir ne sont pas des législatives véritables, mais elles permettent une représentation d'une opposition avec un programme présidentiel alternatif.
Voilà. Oui. Vous écoutez la radio du soir de Dakar. Notre invité aujourd'hui, c'est Dr. Abdourahmane Sarr, tête de liste. Vous êtes excellent économiste.
C'est vous qui le dites.
Et en financier. Mais apparemment, vous n'êtes pas bon en arithmétique.
Ah bon?
Je donne la preuve. Par exemple, l'élection présidentielle. Vous avez eu du mal à réunir les 10 000 signatures. Résultat, vous avez été disqualifié par la Cour suprême.
Non, je leur ai donné 12 438 signatures.
Ils ont dit que seuls 8 000 et quelques 8 100.
Ils ont donc seulement dit que je leur ai donné 10 000
était valable.
Ils ont dit non seulement que je leur ai donné 10 000 et de 8 000, 8 000 seulement était valable. Mais leur limite de l'Union européenne qui a été fait après a confirmé que moi, Abdourahmane Sarr, Youssou Ndour, etc., par échantillonnage, que les signatures invalidées étaient bonnes.
C'est pourquoi j'ai lu votre première déclaration de candidature à l'élection, aux élections législatives, et il y a un côté cocasse, vous semblez dire, je vous prends à témoin, moi, Abdourahmane Sarr, j'ai plus de 30 000 signatures.
Absolument.
Voilà, c'est voilà, un peu ça. Voilà. Donc, le problème est réglé.
Non, mais vous savez, les gens m'ont essayé de me vendre des récépissés de partis politiques. Certains ont essayé de me louer des récépissés de partis politiques. Je vous dirais que même des membres de ma famille m'ont dit, mais Abdou, pourquoi tu te casses la tête à chercher des signatures encore? Il risque d'invalider ta candidature une deuxième fois, alors que ça fait depuis 5 ans que tu travailles sur tes projets et il faut que tu puisses les présenter aux Sénégalais. J'ai dit non, moi je veux aller à cette élection d'abord seul, sans coalition. Je veux y aller en tant qu'indépendant avec tous ceux qui croient en cette vision. Et nous avons collecté les 32 000 signatures que nous leur avons données, et cette fois-ci ils ont bien compté et nous ont permis de partager notre vision avec nos compatriotes.
Maintenant, Abdourahmane Sarr, donc partant pour ces élections législatives, est-ce que vous, en fait, par rapport à vos chances de victoire, c'est une liste indépendante face à de grosses écuries?
C'est ça.
Pensez-vous véritablement obtenir cette majorité parlementaire?
Absolument. Vous savez, en fait, comme je dis, la majorité parlementaire, étant donné le mode de scrutin, est une impossibilité. Vous voyez, nous n'avons pas construit nos institutions comme ça. Nous ne les avons pas construites pour avoir une cohabitation. Ce n'est pas possible. Vous voyez, nous avons construit pour qu'il y ait une majorité présidentielle qui gouverne et une opposition représentée. Donc, moi, je dis que l'opposition sera bien représentée. Nous sommes des indépendants, donc nous disons que les alternatives seront bien représentées. Dans ma deuxième déclaration à la télé, j'ai dit qu'il était extrêmement important que les Sénégalais sachent que dans cette élection, il y a 47 listes. Mais en réalité, il n'y en a que 4.
Vous avez procédé à une catégorisation.
À une catégorisation des 47.
Vous faites partie du groupe des alternatives.
Voilà. Donc, vous avez le pouvoir. Et tous ceux qui soutiennent le pouvoir, étant donné ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la nature de notre régime, je ne vois pas la pertinence de voter pour quelqu'un qui dit « Je soutiens le président de la République, mais votez pour moi pour que je sois un député sur une liste différente de celle du président de la République. » Ça n'a pas de sens. Ça ne correspond pas à la nature de nos institutions. Donc, soit vous êtes avec le pouvoir et vous êtes dans la liste de Macky Sall. Si vous n'avez pas pu être dans la liste de Macky Sall, à ce moment-là, vous n'auriez pas dû présenter une liste et les Sénégalais ne devraient pas vous choisir. Donc, il y a 4 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe du pouvoir et tous ceux qui soutiennent le pouvoir. Le deuxième groupe, je les appelle les frustrés du pouvoir, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ont élu le pouvoir, été avec le pouvoir, ont un pied dans le pouvoir et un pied en dehors du pouvoir. Je pense notamment au PS et les dérivés de l'AFP. Le troisième groupe est le groupe du PDS, et je dis toujours que eux, ils vont tenir un congrès grandeur nature lors de cette élection pour déterminer ceux qui vont hériter du PDS. C'est Abdoulaye Wade, c'est tous ceux qui viennent du PDS. Le quatrième groupe, c'est le groupe des alternatives. Et nous pensons que nous sommes effectivement la meilleure alternative. Et tout ce que nous pouvons faire, comme nous sommes en train de le faire dans cette émission, c'est de présenter aux Sénégalais la vision alternative du Sénégal. Toute la classe politique, depuis 1960, réfléchit de la même façon. Régler les problèmes des Sénégalais à leur place. Nous nous disons non, il y a une alternative. L'alternative, c'est de faire en sorte que les Sénégalais puissent régler leurs problèmes eux-mêmes à leur niveau individuel, s'ils trouvent du travail, ils ont une activité qui fonctionne, et pour ça, il faut que le financement de l'économie puisse fonctionner. Ensuite, il faut autonomiser, responsabiliser les élus locaux, de telle sorte que l'État central puisse se concentrer.
En tant que TDLIS, vous semblez satisfait de la gestion du processus électoral, parce que au moment où certains TDListes disons dénoncent des manquements dans la gestion de ce processus, et d'ailleurs à ce sujet Maître Abdoulaye Wade qui appelle les populations à descendre dans la rue mardi prochain, vous est-ce à dire que vous êtes disons content de la gestion de ce processus?
Non, moi je pense l'avoir dit dans une interview récente, c'est-à-dire qu'il y a eu des manquements. C'est-à-dire que je sais très bien que, bon, confectionner de nouvelles cartes, avoir un nouveau fichier électoral, il faut s'en donner le temps, n'est-ce pas? Donc peut-être que le temps n'était pas donc adéquat non pour une opération de cette envergure. Mais je ne pense pas, et ça je le pense très sincèrement, et je l'ai dit même en 2011 lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle, que le Sénégal n'a plus un problème d'institution, le Sénégal n'a plus un problème d'élection, il se trouve qu'on a peut-être un problème d'organisation. Moi qui veux pas, je n'ai pas encore ma carte. Je suis allé 5 fois à la mairie de Yoff pour récupérer ma carte. Ils ne l'ont toujours pas, par devers eux. Et je ne pense pas qu'ils le font parce qu'il y a une volonté de rétention. Parce que je suis la dernière personne à qui on ne voudrait pas donner sa carte parce que je leur ai promis de venir à la RTS. Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Vous voyez? Alors donc, c'est un manque d'organisation. Je ne pense pas que ce soit une volonté de fausser le débat. Et donc, il va falloir trouver...
Le nombre de cartes que les citoyens ont du mal à retirer, est-ce que cela ne va pas impacter justement le taux de participation? Puisque vous-même,
Je n'ai pas ma carte.
Non, seulement les populations. Ouais. Est-ce que le fait que... Parce que ça a une certaine ampleur, et cela ne va pas impacter le taux de participation le 30 juillet?
Non, parce que étant donné que c'est un problème d'organisation, c'est ce que je pense, c'est pas une volonté de fausser le jeu démocratique. Donc, si à bonne date, les cartes n'ont pas été retirées, moi, en tant que responsable, la finalité, c'est quoi? C'est que tous ceux qui se sont inscrits puissent aller voter. Je leur aurais dit tout simplement, rendez-vous au bureau de vote avec votre ancienne carte d'identité qu'on a prolongée jusqu'en septembre. De toute façon, les informations qui sont sur l'ancienne carte d'identité sont également dans la nouvelle carte biométrique au verso. Donc, vous y allez avec votre récépissé de dépôt, vous y allez avec votre ancienne carte, votre carte y sera certainement, et si elle n'y est pas, votre nom sera sur la liste. Donc, dans tous les cas, vous allez voter, parce que c'est le résultat qui compte. Donc, le message à donner aux Sénégalais, c'est que chacun aille, le jour du vote, à son bureau de vote, avec l'intention de voter. Soit avec son récépissé, parce que c'est la responsabilité de l'État de vous donner votre carte, soit avec votre ancienne carte d'identité, parce que l'État ne vous a pas donné votre nouvelle carte d'identité, ou bien avec votre nouvelle carte d'identité si vous l'avez obtenue. Dans les trois cas, la finalité doit être que chaque citoyen qui veut voter aille voter.
Voilà. Vous êtes à la tête d'une liste indépendante. Que pensez-vous d'une partie significative d'opposition qui a toujours récusé le ministre de l'Intérieur en même temps militant du parti au pouvoir?
Je vous donne la même réponse. Moi, Abdourahmane Sarr, je pense que nous avons encore... Le Sénégal a dépassé des problèmes d'institution. Le Sénégal a dépassé le problème d'élection. C'est un problème résolu. Personne ici ne peut voler les élections. Alors, il suffit de dire aux populations, allez à votre bureau de vote et votez. Bon, donc, très sincèrement, moi, je ne vois pas de problème avec un ministre de l'Intérieur. Bon, parce que les acteurs, ils font partie du processus du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère le processus, mais les acteurs sont impliqués dans tout le processus. Oui. Alors, donc, il faudrait que nous, au Sénégal, qu'on sache une chose. Nous avons dépassé nos problèmes d'institution. Nous avons dépassé nos problèmes d'organisation d'un scrutin. On les organise mieux que beaucoup d'autres pays très avancés, même les États-Unis qui ont eu des problèmes de comptage de bulletins à un moment donné, vous vous souvenez, le président Bush. Alors, notre problème, il est fondamentalement économique et il est un problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance, il s'agit tout simplement de changer de gouvernance en appliquant des valeurs différentes. C'est tout notre problème. Nous n'avons jamais alterné. On a changé le président.
Alternance, mais pas alternative.
Voilà, on a alterné électoralement plusieurs fois, mais nous n'avons jamais alterné dans la manière de faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, 90% des Sénégalais, nos chers compatriotes, réfléchissent tous de la même façon. Nous sommes fondamentalement socialistes en fait. D'accord.
D'accord. Voilà, nous sommes socialistes du fait qu'on a hérité d'un État socialiste. Dans sa conception, il est centralisé, cet État-là. Il est dirigiste, il est développeur. Mmh. Vous voyez, et que c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez affaiblir l'État. C'est notre culture. Et c'est la France qui nous a donné cette culture. Mmh. Hein? La France elle-même doit se réformer par rapport à ça, sinon elle-même, elle va s'affaiblir. Et elle est en train de s'affaiblir. N'est-ce pas? Mmh. Ils ont élu le président Macron. Le président Macron a le même programme que nous avons depuis 2011 pour le Sénégal. Autonomiser, responsabiliser, libéraliser. N'est-ce pas? C'est ce que la France va faire les 5 prochaines années avec le président Macron.
Cela veut dire que vous vous préparez déjà pour la présidentielle de 2019?
Non, en fait, c'est pas une préparation.
Non, ma question.
Oui, oui, je comprends.
Est-ce que Abdourahmane Sarr sera partant pour la présidentielle de 2019? Voilà.
Abdourahmane Sarr était candidat à l'élection présidentielle de 2012 et je n'ai pas pu participer parce que ce n'était pas de mon propre gré, on m'en a empêché. Et moi, je dis que mon pays doit alterner de façon de faire. Donc là, nous sommes candidats indépendants en élection législative, ce sera aux Sénégalais de nous dire ce qu'ils pensent de cette alternative. S'ils nous disent, ah, vraiment, nous on a entendu, vous avez essayé de nous expliquer cette vision en 2012, vous n'avez pas pu. Vous avez eu la patience.
Évidemment, si vous avez réussi à collecter 30 000, plus de 30 000 pour les élections législatives, on peut dire que, voilà, pour les 10 000 exigés pour la présidentielle.
Non, en fait, ce n'est pas un objectif en soi, la présidentielle. Ce qui est un objectif, c'est de partager une vision. Je veux convaincre mes compatriotes qu'il faut alterner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chez le même médecin pour la même maladie. Il vous donne le même remède. Pendant 60 ans, vous n'arrivez pas à guérir et vous ne voulez pas changer de médecin. Ça ne va pas de soi. Il faut changer de médecin. Je vous dis que le changement de médecin qu'il nous faut n'est pas un changement d'homme. C'est un changement de façon de faire. C'est un changement de valeurs qui guide l'action publique. Les valeurs qu'il nous faut alterner. Et dans le monde entier, il n'y a que deux valeurs qui guident. C'est pourquoi dans des pays comme aux États-Unis, il n'y a que deux camps. Soit on dirige, ou bien on autonomise. Ce sont les deux possibilités. Aujourd'hui, en France, vous avez toujours eu un clivage gauche-droite. C'est soit on est de gauche, soit on est de droite. Lorsqu'on met de côté les questions de conservatisme, etc., c'est soit on libéralise, ou bien on laisse l'État faire les choses. L'État a toujours essayé de faire pour nous, depuis 1960. Notre État n'y arrive pas, mais il faut alterner. Et c'est au moins 5 ans, notre son de cloche. Donc nous présentons ces valeurs et ces façons de faire aux Sénégalais pendant ces législatives. Et encore une fois, les élections législatives au Sénégal, c'est un programme alternatif présidentiel.
D'accord.
C'est comme ça que, bon, maintenant, s'ils nous disent que c'est formidable et on veut de ça, bon, on le saura le 30 juillet, s'ils nous disent que nous n'en voulons pas, à ce moment-là, nous, on n'est pas obligé de continuer.
Ah d'accord, ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à obtenir ne serait-ce qu'un seul député, vous n'allez pas vous présenter à la prochaine présidentielle.
Non, parce que là, comme je vous dis, je ne réfléchis pas en termes de présidentielle. Je réfléchis en termes de vouloir partager avec mes compatriotes une vision. En 2011, c'était une présidentielle, donc j'ai voulu être candidat.
Évidemment, si vous avez un député ou deux, cela veut dire qu'une partie des Sénégalais ont quand même cautionné ou croient à votre programme.
Oui, absolument. Et à ce moment-là, nous saurions, nous, en tant qu'entité indépendante, qu'il y a un groupe de Sénégalais qui croit en cette vision-là. Et tant que notre pays n'aura pas alterné, notre engagement va rester ferme et faire en sorte qu'on puisse alterner. Maintenant, est-ce que moi, je serai candidat à l'élection présidentielle? Je dis ça dépend. Ma volonté à moi, c'est qu'on alterne de façon de faire. Donc, mais ce n'est pas un parti politique que j'ai créé. Un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir et de participer à toutes les élections. Nous, notre vocation n'est pas de conquérir le pouvoir et de participer à toutes les élections, raison pour laquelle j'avais insisté pour qu'on cherche des signatures et qu'on ait une candidature indépendante. Maintenant, si je prouve que mon pays fonctionne toujours selon des valeurs qui ne lui permettront pas de s'en sortir, on est le 25e pays le plus pauvre du monde. On nous parle d'émergence, il vous suffit de faire le tour du Sénégal. Nous ne sommes même pas à la tête de l'eau à émerger. Nous n'émergeons pas. Il faut qu'on se dise la vérité.
Vous mettez l'accent sur l'adhésion à votre vision, à votre programme. Et on revient, vous me le permettez, à votre premier cahier par rapport à la mise en place de ce fonds commun. Vous êtes en train de mener une campagne pour l'adoption de ce fonds-là. Où en êtes-vous? Vous avez fait des démarches auprès des citoyens, auprès des collectivités locales surtout. Oui. C'est quoi le feedback?
Non, c'est-à-dire que quand vous faites ce projet-là, je vous dis que ce projet-là,
en 30 minutes, quelle que soit la personne avec laquelle vous discutez de ce projet-là, en 30 minutes, la personne est d'accord. Il vous suffit de voir les témoignages que j'ai fait passer à la RTS. En fait, la réalité, vous savez, M. Mbouet, c'est quoi? Tout le monde est d'accord avec ce projet. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire j'ai eu à échanger de ce projet-là avec de hautes autorités de ce pays. Vraiment, il n'y a pas de problème dans ce projet-là.
C'est quoi le problème alors?
Le problème, la Banque centrale nous dit que cette monnaie complémentaire va venir concurrencer le franc CFA. Ça, c'est un. Et donc, la Banque centrale dit que les populations sont analphabètes et que donc mettre en œuvre ce projet pourrait les mettre à risque. Ok. Voilà. Et nous disons non. Cette monnaie complémentaire existe en Suisse. Il y a le WIR, W-I-R, en Suisse, qui est complémentaire au fonds suisse depuis 75 ans et qui est permise par la Banque suisse. Vous avez des monnaies complémentaires en France. Vous avez donc des monnaies complémentaires en Angleterre. La ville de Bristol, la première ville à avoir une monnaie complémentaire à l'échelle de la ville. Nous disons que nous voulons une monnaie nationale complémentaire de telle sorte que les populations puissent être incluses financièrement et puissent avoir accès au financement. Voilà, donc la Banque centrale dit ce qu'elle dit. Nous avons contacté le président de la République à ce propos, qui nous a répondu. Nous a mis en rapport avec son ministre des Finances qui a saisi la Banque centrale. Nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez, entre techniciens, nous ne sommes pas d'accord.
Autrement dit, il y a une réticence, pour ne pas dire une forte résistance à votre projet.
C'est ça. Alors donc, nous ne sommes pas d'accord en tant que techniciens, mais ceux qui doivent nous départager, ce sont les populations. La population est souveraine. Nous leur disons, d'abord, il vous faut votre propre monnaie, le CFA n'est pas votre monnaie. Ensuite, il vous faut une monnaie nationale complémentaire pour faciliter l'accès au crédit, au financement. Et c'est à vous de le décider. Et vous allez élire donc des députés, et les députés, l'une d'agan, le moins d'agan.
D'accord. Nous allons terminer, pratiquement nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. D'abord, c'est une question d'actualité, une question plus ou moins personnelle, pour ne pas dire familiale. Voilà. La question d'actualité, ça concerne l'affaire Khalifa Aboubakar Sall. Oui. Vous avez suivi un peu toutes les péripéties de cette affaire. Quel est votre avis, effectivement, sur cela?
Bon, notre avis, je l'ai exprimé donc, publiquement sur notre page Facebook. J'ai dit que, de mon point de vue, le maire Khalifa Sall n'a pas raison. Il est un peu victime. Il est un peu victime, n'est-ce pas? Bon, c'est un adversaire politique du pouvoir et ils l'ont eu. Ils l'ont eu par rapport à la gestion d'une caisse qui, dans l'orthodoxie, sa gestion a posé problème au niveau de la mairie. Donc ça, c'est mon point de vue. Une caisse d'avance, elle se justifie. Donc les dépenses sont justifiées a posteriori. Donc lorsqu'on vous pose des questions, la question de savoir... ces dépenses-là, elles sont allées où? On en donne les preuves. Donc une mairie n'a pas de fonds politiques. Très honnêtement, ça c'est mon point de vue. Je considère qu'il a fauté sur le plan purement de la gestion. Maintenant, vraiment, nous sommes tous désolés de cela. Qu'il soit en prison, on ne peut pas vraiment se réjouir.
Et que dit par exemple de Khalifa Sall Tedelis qui... jusqu'à ce que le jugement se tienne, jouit, comme l'a dit d'ailleurs le ministre de la Justice, de ses droits civils, civiques et politiques, mais concrètement, il est empêché de faire campagne, de battre campagne.
Non, moi je pense qu'on ne peut pas être en prison et prétendre battre campagne. C'est-à-dire qu'on est en détention, on est en détention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... La liberté provisoire, elle se décide selon des critères qui n'ont rien à voir avec... les élections. La liberté provisoire, elle peut être donnée par rapport à des craintes de troubles à l'ordre public, etc. Si je me souviens bien, Khalifa Sall avait appelé au soulèvement juste avant qu'il ne soit arrêté. Personnellement, vraiment là, je vous parle en tant qu'indépendant. Je ne suis ni d'un bord, ni de l'autre. Vous voyez je pense que quand même, sortir de prison pour aller en liberté provisoire, pour aller en campagne, ça fait quand même un peu désordre.
Voilà. Toute dernière question, je disais tantôt à titre personnel et familial. Votre fille Amissa,
oui?
Votre fille est promise là où il a un bel avenir. Mm-hmm. Il a décroché son high school diploma. Mm-hmm. J'espère que je prononce bien.
High school diploma.
Non, la question, est-ce qu'elle est comme vous, touchée par le virus de la politique?
Par contre, mon fils qui suit la campagne de loin, parce qu'il est actuellement à Washington, lui est très intéressé par ce que nous faisons. Mais en fait, même moi, je ne sais pas, est-ce qu'en fait c'est le virus de la politique? Parce que j'insiste sur le fait que je suis indépendant, en ce sens que j'ai vraiment quelque chose à partager avec mes concitoyens. Sinon, je n'ai vraiment aucune intention de gérer un parti politique pour l'instant, disons.
Voilà, Dr Abdourahman Sarr, tête de liste de Moum Sobop de la liste indépendante, je souligne. Moum Sobop, Moum Sobop, je vous remercie. C'est la fin de cette émission.
Non, c'est vraiment moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'opportunité donc, de développer et d'expliquer ce que nous offrons au peuple sénégalais. Et encore, je le dis encore une fois, quand on alterne et quand on change, il faut changer avec du neuf. On ne peut pas changer avec du vieux. Tout ce qui est là sur le champ politique, vous l'avez connu. Donc il faut avoir le courage de changer avec du neuf.
D'accord. Voilà, 40 minutes pour convaincre. Quatrième numéro, c'est fini. Au micro, Ibrahim Mouch, à la technique Souleymane Ndiaye, à la coordination Anne Marignan, Doudou Koulibaly. Merci d'avoir suivi. Inch'Allah, demain nous recevons la tête de liste de la coalition gagnante du Sénégal. Ici donc à Dakar, Joseph Sarr. Voilà, je vous remercie.
Législative 2017. Le peuple sénégalais choisit ses représentants à l'Assemblée nationale. La RMD ouvre sa tribune d'expression 90 minutes pour convaincre aux listes en compétition. 90 minutes pour convaincre, un investi face à la rédaction. C'est sur la 95.5 FM.